Vous êtes avec Radio SBS en français.
Bebel, il y a un peu, Bebel, il a deux carrières. Et lui, il a voulu s'attacher à la fabrique Bebel. Comment Belmondo est devenu Bebel? À travers une sélection de films qui alternent films commerciaux, comme il sait faire, comme il s'est particulièrement illustré dans les années 80. C'est un peu dommage d'ailleurs, mais bon, ça a été son choix. Et des films, plus cinéma d'auteur, parce que on oublie que Jean-Paul Belmondo, ça a été la figure de la nouvelle vague, et ça a été un des acteurs préférés, en tout cas de Jean-Luc Godard, qui lui incarnait ce mouvement.
Et ses débuts au cinéma remontent à la fin des années 50, d'après ce que je comprends.
Oui.
Il est arrivé comment au cinéma?
En fait, Belmondo venait d'un milieu assez
bourgeois. Il n'était pas cascadeur.
Non, il venait d'un milieu assez bourgeois quand même. Il avait un père qui était un sculpteur avec une vraie renommée. Et puis lui, c'était un peu le mauvais élève, le trublion. Il s'est pris de passion en fait assez jeune pour la boxe. Et puis il n'a pas vraiment fait carrière. D'ailleurs, il a ce physique de boxeur. Hein. Il a le nez cassé, on le voit. Il savait pas trop comment se réaliser, mais il était clair pour lui que jouer la comédie, c'était quelque chose qui lui plaisait. Alors, il est rentré au Conservatoire de Paris, qui était quand même très prestigieux dans les années 50, on les a complètement oubliés, mais avec des professeurs qui étaient eux-mêmes de grands comédiens de théâtre, de cinéma. Et Belmondo là, a été découragé et ne s'est pas découragé. C'est-à-dire que ses profs ne lui prédisaient aucun avenir, en disant qu'avec le physique qu'il avait, aucune fille voudrait l'embrasser sur grand écran. Et il s'est accroché. Et Belmondo, c'est un garçon de copains. Il aime les copains et il s'est fait des copains qu'on a appelé la petite bande du conservatoire, avec des gens comme Jean-Pierre Marielle, Jean Rochefort, Claude Rich. C'est devenu une bande complètement inséparable, et d'ailleurs à la vie et à la mort. Donc Belmondo, il est au conservatoire, ses profs se moquent de lui, carrément, ses copains le soutiennent, il a des petites participations, des petits rôles qu'il décroche dans des films très très secondaires, ça on est à la fin des années 50, et puis il y a un critique de cinéma qui est en train de préparer son premier film, qu'il remarque, et ce critique de cinéma c'est Jean-Luc Godard, il trouve que son physique, parce que tout est physique chez Belmondo, est quelque chose de très frais dans le cinéma français. Et il lui confie le premier rôle de son premier film qui est À bout de souffle et qui va devenir un énorme succès, qui est le premier film de la nouvelle vague, une nouvelle façon de faire du cinéma qui fait appel à des jeunes, qui parlent des problèmes de société, qui se filment dans la rue, parce que c'est le contraire de l'académisme, qui avait pignon sur rue à cette époque. Et Belmondo incarne ce nouveau visage, cette jeunesse telle qu'elle existe en fait dans la vraie vie. Et c'est le départ. Et c'est un départ très fort parce que avec À bout de souffle, qu'on a présenté l'année dernière dans le premier classique, non seulement le succès public est là, mais en plus le film va faire le tour du monde et va fonder cette école de la nouvelle vague dont on parle encore aujourd'hui et particulièrement dans le monde anglo-saxon. Alors, avec cette nouvelle vague, avec Godard, avec qui il va quand même tourner trois films, il va incarner une nouvelle génération d'acteurs et va avoir même un écho outre-Atlantique, puisque dans les années 60, il fait la couverture de Life Magazine avec ce gros titre Jean-Paul Belmondo, le nouveau visage du cinéma. Alors comme beaucoup d'acteurs français et d'actrices, il va pas se laisser séduire par Hollywood, il va pas avoir envie de faire ce cinéma-là, qui est un cinéma très carré, très, très professionnel, etc. Lui va c'est bien dans son tempérament et dans le tempérament de beaucoup d'acteurs français, il a envie de rencontres, il a envie de vivre des aventures à travers des films et pas forcément faire un métier.
Il a joué aussi aux côtés de grandes comédiennes comme Jeanne Moreau, Catherine Deneuve, Sophia Loren, Claudia Cardinale et Jean Seberg.
Jean Seberg, on l'a vu l'année dernière. Cette année, il va y avoir d'autres grandes actrices là dans ce cycle Bebel. Il y aura Emmanuelle Riva, qui était vraiment incontournable dans les années 60.
Ouais.
On retrouvera aussi Annie Dupéret, dont on parle plus trop, mais qui en même temps a fait une belle carrière à la télévision et surtout récemment. On va retrouver Françoise d'Orléac, l'incroyable Françoise d'Orléac, sœur de Catherine Deneuve, qui était très très populaire dans les années 60 et qui est morte à 25 ans dans un accident de voiture, très tragiquement. Une carrière qui s'annonçait vraiment internationale. François Truffaut disait d'elle que c'était ce que le cinéma français avait de mieux à l'époque. Donc voilà, mais effectivement, vous citiez d'autres actrices.
Ben, il a tourné. Anna Karina,
bien sûr. Il a tourné dans tous les films de l'époque, donc forcément, il a rencontré toutes les vedettes, toutes les plus belles femmes. Il a vécu d'ailleurs aussi avec de célèbres actrices, Ursula Andress, qu'il avait rencontrée sur le tournage de Les Tribulations d'un Chinois en Chine, Laura Antonelli, avec qui il a vécu un certain moment, qui est une actrice italienne. Et puis, il a formé des duos mythiques avec Jacqueline Bisset, avec Raquel Welch, avec Claudia Cardinale, bien sûr, et puis Catherine Deneuve, La Sirène du Mississippi, François Truffaut, Romy Schneider, vous la citiez. Non, vous avez cité Jeanne Moreau.
En fait, on
a redécouvert tous les deux un film avec Romy Schneider qui est assez anecdotique.
Vers la fin des années 50.
Voilà, ouais. Mais Jeanne Moreau dans Moderato Cantabile, voilà. Et puis après, il s'est un peu enfermé dans un cinéma de garçon quand même, à partir des années 80, où les femmes étaient plus faire-valoir et le film se construisait autour de Bebel.
Le film qui va inaugurer le festival Pierrot le Fou de Jean-Luc Godard.
Oui, c'est un film qui a été réalisé en 1965 et qui fait partie des trois films que Belmondo a tourné avec Godard. Et il se trouve que deux d'entre eux sont deux chefs-d'œuvre absolus. C'est la grande époque de Jean-Luc Godard, avec des films ambitieux, avec des moyens. Et ces films vont faire le tour du monde et restent aujourd'hui des grandes références du cinéma français qui sont encore et toujours appréciées à l'étranger, en particulier dans le monde anglo-saxon. Le premier film, on en a parlé tout à l'heure, c'était À bout de souffle.
Ouais.
C'était un debut film, comme on dit en anglais, et pour Belmondo et pour Godard. Et puis là, Pierrot le Fou, c'est une histoire très rocambolesque, une histoire d'amants criminels qui sont en fuite sur les routes de France. Et là, Godard fait appel à sa compagne de l'époque, qui est indissociable de la Nouvelle Vague, qui était une grande vedette dans les années 60, c'est Anna Karina, qui est en fait étrangère, elle est danoise, je crois, ou hollandaise. Et elle a fait carrière en France, dans le cinéma français, dans la chanson, comme dans les films. Et ils forment un très beau duo, une sorte de Bonnie and Clyde, évidemment avec un twist bien français, une espèce de désinvolture, un côté... ce que vous voyez n'est pas sérieux, qui est très consubstantiel au cinéma de Jean-Luc Godard. Et en même temps, c'est des dialogues vraiment ciselés, bourrés de références cinématographiques, notamment au cinéma américain dont Godard était un grand fan. Et puis, vous avez des paysages merveilleux. C'est un film en couleur qui avait été fait pour le Cinémascope. Voilà, c'est effectivement le film d'ouverture parce que c'est le plus iconique.
Et d'ailleurs, tous les films ont été remasterisés, d'après ce que je comprends.
Alors, presque tous.
Presque tous.
Celui-là l'est. Et puis, certains films en noir et blanc qui sont plastiquement, au plan cinématographique, sont d'une beauté absolue. Et ça valait vraiment le coup d'une restauration. Et puis, il y en a deux qui ne le sont pas, mais qui sont de très très bonne qualité.
On parle des autres films. L'homme de Rieux de Philippe de Broca.
Oui.
Donc c'est avec Françoise d'Orléac.
Voilà, bah écoutez, je ne sais pas qui n'a pas vu L'Homme de Rio, et ceux qui ne l'ont pas vu, il faut courir dardard le voir, surtout sur grand écran. C'est probablement le plus grand succès de la comédie d'aventure à la française, le plus grand succès de tous les temps. c'est un film de Philippe de Broca qui date de 1964 et qui se passe dans le décor très exotique de Rio, de Janeiro et de la ville de Brasilia aussi, où il y a pas mal de scènes, notamment à la fin, qui y sont tournées. C'est une comédie d'aventure, c'est un film qui a inspiré beaucoup de cinéastes. Alors, la légende dit que Steven Spielberg en a tiré la substantifique moelle de son Indiana Jones, avec lequel on voit beaucoup de parallèles, notamment cette espèce de chasse au trésor, de statues précieuses volées, de fléchettes empoisonné, c'est très très Indiana Jones, et puis aussi le film emprunte, et ça les scénaristes l'ont avoué, à Tintin. Moi j'ai repéré plein d'histoires de Tintin, évidemment on pense à l'oreille cassée, entre autres, mais il y en a plein d'autres en fait. Et voilà, c'est une grande comédie d'aventure. Ce qui est très amusant dans le duo que Jean-Paul Belmondo forme avec la divine, vraiment, Françoise d'Orléac, c'est qu'ils sont électriques tous les deux, à l'opposé du duo romantique tel qu'on se l'imagine. Jamais ils se font de papous, ils sont toujours dans l'action, ils sont toujours en train de se provoquer. Il n'y a même pas de fin avec un baiser de fin, pour vous dire. C'est vraiment tout dans l'action, tout dans l'aventure, tout dans cette histoire mystérieuse. Et c'est on n'a pas de répit, et c'est un grand moment, un grand moment de divertissement en fait. Et avec ce film, Belmondo a commencé à devenir le Bébel que l'on connaît, ce type très proche de vous, un peu bagarreur, un peu beau parleur, pas très sérieux, que tout le monde adorait, et qui par ce film va devenir Bébel, le mec sympa d'à côté.
On passe aux deux films de Jean-Pierre Melville. Peut-être d'abord Léon Morin, prêtre.
Oui, c'est un très beau film. Et je ne le connaissais pas, en fait. Vous voyez, moi, je connais bien le cinéma, mais j'ai comme ça des petits trous. Ouais. Et j'ai été vraiment très, très surpris à plusieurs titres, parce que Jean-Pierre Melville, c'est le roi du cinéma noir policier. C'est lui qui a fixé des codes qui font que c'est devenu un maître du genre et qui est reconnu.
Et c'est lui qui a fait l'Armée des Ombres aussi.
C'est lui qui a fait l'Armée des Ombres, c'est lui qui a fait Le Samouraï, hein, qui est, ouais, avec Alain Delon, qui est le, on va dire, son masterpiece, son chef-d'œuvre. Et alors, on parlait de Léon Morin prêtre. C'est pas un film policier, c'est un film qui se passe pendant l'occupation en fait allemande, ouais, mais pas qu'allemande, c'est dans un petit village de province en France. D'ailleurs, ça commence par l'occupation italienne. Vous verrez, il y a tout cet arrière-plan en fait qui est très subtil, très présent et très secondaire à la fois par rapport à l'histoire qui va se jouer, mais qui est d'une justesse absolument incroyable, et chaque détail compte plastiquement. Dans l'installation d'une scène, Melville est incroyable pour ça, c'est-à-dire qu'il a le souci du détail absolu. Alors, c'est adapté d'un roman d'une femme auteure qu'on connaît mal aujourd'hui, qui est un peu passée de mode, et qui a été pris Goncourt, en fait, et qui raconte l'histoire d'une femme communiste, laïque, qui, par provocation, va aller se confesser pour se plaindre, en fait, du comportement de l'Église, pendant la guerre notamment, et notamment par rapport au problème des Juifs. On suppose qu'elle avait un mari juif, sa fille est juive, elle l'a fait baptiser pour la protéger, et puis elle la donne en nourrice pour éviter qu'elle soit exposée. Et par provocation, donc, elle va rencontrer un prêtre au hasard. Et elle tombe sur Belmondo, qui est un tout jeune prêtre.
Donc là, c'est Emmanuel Riva qui
incarne ce personnage. Elle tombe sur un tout jeune prêtre, un tout jeune Belmondo. On est en 1961. Hein. Il a fait À bout de souffle, qu'il a révélé à 20 ans et quelques l'année d'avant. Et là, elle n'en revient pas. D'abord parce qu'il est beau, il est séduisant, il est... Il est voilà, sa seule seul foi, c'est Dieu. Mais en plus, il est politiquement engagé et va commencer une espèce de dialogue entre eux qui va pousser cette femme à la conversion. Et en même temps, lui va rester complètement dans sa mission, en fait, hein, sachant que le personnage d'Emmanuel Riva va finir par tomber amoureuse du prêtre et vouloir le débaucher sans succès. C'est une très belle histoire et c'est très, très étonnant chez Melville parce que c'est un film, bien sûr, Léon Morin, ça s'appelle Léon Morin prêtre, mais toute l'histoire est vue à travers les yeux de l'héroïne. C'est un film en cela féminin et pour le roi du cinéma masculin, c'est insolite, particulièrement insolite. C'est un très beau film dans un noir et blanc classieux, j'aime pas ce mot, mais c'est exactement ça. Et voilà, et vraiment je le conseille à tout le monde parce que c'est une belle histoire profonde avec des dialogues qui font sens.
Et le Doulos qui a été réalisé en 63, je vois un Belmondo comme à la Humphrey Bogart.
Alors le Doulos c'est 63, ouais. C'est exactement ça. Là c'est tout le contraire de Léon Morin. On est dans le film noir par excellence. C'est plein de mauvais garçons. C'est bourré de références au code de l'honneur. C'est des braquages et c'est des balances. Puisque le Doulos dans le jargon de l'époque, ça veut dire quelqu'un qui est indique pour les flics. C'est dans des noirs et blancs, dans des ambiances un peu hivernales, oppressantes, pleines de mystères, pleines d'angoisse. Alors là, les femmes n'ont pas le plus beau rôle. Hein. C'est pas qu'elles soient des faire-valoir, c'est qu'elles n'ont pas leur mot en fait à dire. Et puis quand elles l'ouvrent, elles s'en prennent une. Quoi. C'est vraiment le cinéma des années 50-60, le cinéma policier. Et avec ce film-là, en fait, Melville fixe les codes de ce qui va devenir sa marque de fabrique, en fait. C'est un film qui est étudié dans toutes les écoles de cinéma, qui est cité par de grands metteurs en scène d'aujourd'hui. Le premier à parler du Doulos, c'est Quentin Tarantino. Vous pouvez pas, en fait, vous lancer dans le cinéma policier sans avoir décortiqué vos Melville avant. Et le Doulos, c'est le premier d'une belle série à venir. Et moi, je trouve vraiment un des plus réussis.
Et ce film de Henri Verneuil, Weekend at Dunkirk, Weekend at Zuidkut, d'après ce que je comprends. Ça tombe bien parce qu'il y a le film de Christopher Nolan qui passe en ce moment sur le grand écran.
Alors, oui.
Et il y a beaucoup de polémiques autour.
Oui, on est dans une époque de polémique. Ce film qui sort la même année que L'Homme de Rio, en fait, est intéressant à plusieurs titres. D'abord, comme vous dites, en anglais, c'est Weekend at Dunkirk, alors que le film en français s'appelle Weekend at Zuidkut. Je pense que les Anglais n'ont jamais pu prononcer un mot pareil. En plus, il y a deux O, Z, U, Y, donc ils ont transformé ça en Dunkirk. Parce que la toile de fond, en fait, de ce film, c'est la Seconde Guerre mondiale, c'est le tout début. Et c'est la bataille de Dunkerque, qui est un épisode assez peu connu. Je ne sais pas si vous vous rappelez, la France rentre en guerre contre l'Allemagne. La France est réputée être un pays très militarisé, avec une armée très vaillante. Donc, tout le monde est persuadé que la France n'a rien à craindre des Allemands, mais les Allemands envahissent la France par le Nord. Et là, c'est la défaite de l'armée française qui s'écroule tout de suite et qui pousse des milliers de soldats, en fait, essentiellement britanniques, mais bien sûr français aussi, à fuir vers les côtes de la Manche pour attraper des bateaux et partir en Angleterre avec l'armée allemande à leurs trousses. Alors, Verneuil prend cette histoire pour cadre, pour raconter, en fait, comment dire, c'est un film très étonnant dans le sens où c'est un énorme camp de vacances pour des milliers d'hommes qui sont abandonnés sur une plage, qui attendent des bateaux et qui du coup vont sillonner la campagne, vont vivre une vie comme ça de reclus en plein air, dans ce contexte très très particulier. Comme je vous le dis, on a l'impression qu'ils sont en vacances, mais comme en même temps ils sont habillés en soldats, on se rend compte qu'ils ne le sont pas. Ils vont faire des rencontres. C'est un film qui a eu beaucoup de succès à sa sortie et qui surtout, lors de ses rediffusions à la télévision, a sans doute été le film le plus programmé dans les années 70, il était impossible d'échapper à un week-end à Zuidcoat. Là aussi, avec une belle histoire d'amour naissante au milieu du film, une actrice là qu'on a un peu oubliée, qui a beaucoup tourné dans le cinéma italien d'ailleurs, qui s'appelle Catherine Spack.
Elle est française.
Elle est française. Et il y en a eu d'autres. Il y a eu Dominique Sanda, française, elle aussi, qui a surtout tourné dans le cinéma italien. Je vais pas raconter parce que là, pour le coup,
il
faut le voir. Il y a une vraie histoire. Il y a une vraie histoire, notamment entre Belmondo et Catherine Spack, qui incarne comme ça une jeune fille qui refuse de quitter sa maison qui a été bombardée et qui va évidemment se trouver seule au milieu d'un océan d'hommes qui ont des idées derrière la tête. Et puis Belmondo, avec sa fraîcheur, il est tout jeune, il incarne ce soldat malgré lui qui va vivre une aventure un petit peu tragique, mais de façon très, très souriante à la Belmondo. Alors, vous disiez que il y avait des parallèles à créer avec Dunkirk de Christopher Nolan. Il est impossible que Christopher Nolan n'ait pas vu Weekend at Zuidcoat. Et j'ai même trouvé sur YouTube un montage, une vidéo avec montage qui met en parallèle les grandes scènes des deux films. C'est les mêmes. Wow. C'est les mêmes à évidemment des décennies et des décennies de distance. Alors je sais que Christopher Nolan a cherché à en faire autre chose, a surtout souhaité raconter la guerre vue de l'intérieur. Donc on est beaucoup dans les bombardements, on est beaucoup dans la bataille en fait avec Nolan. Elle est plus périphérique, même si elle revient en fait à la fin du film. Le Weekend at Zuidcoat porte bien son nom. C'est un week-end. Contraint, forcé, mais c'est un week-end. Donc on va vivre des aventures durant ce week-end.
On passe au dernier film d'Alain René. Et du coup, on se retrouve en 1974 avec Stravinsky.
Voilà. Alors, Philippe Platel, qui a programmé, avait voulu maintenir comme ça ce côté Belmondo des débuts, égérie du cinéma d'auteur et de la nouvelle vague. Les débuts avec les films à succès, les films commerciaux, au rang desquels on peut classer d'ailleurs Weekend at Zuidcoat et L'Homme de Rio, évidemment. Et puis, il a voulu faire un petit clin d'œil avec un film de 74, donc qui sort de cette période années 60 très foisonnante, avec un film d'Alain René qui raconte une histoire très particulière, qui est un scandale politico-financier, en fait, qui est arrivé en France dans les années 30 et qui a eu un tel retentissement, en fait, parce qu'il y a eu des tas de compromissions d'hommes politiques, notamment, que ça a failli renverser, en fait, la Troisième République. Mmh. Et au cœur du scandale se trouve un personnage, un escroc, qui est Alexandre Stravinsky et qu'incarne Jean-Paul Belmondo. Alors, il n'y a pas de surprise dans le film, puisque ça commence par le suicide de Stravinsky, qui ça s'est exactement passé comme ça, ouais. Sauf que le Canard enchaîné à l'époque a fait la une en disant que c'était un suicide déguisé et qu'il était possible que ce soit un crime d'État maquillé. Alors on va découvrir tout ça, le personnage il fait penser beaucoup à quelqu'un comme Bernard Tapie. Moi je ne pouvais pas m'empêcher de voir Tapie avec ce côté flamboyant, cette espèce de montée qu'il y a eu et de compromission aussi avec la vie politique et puis cette chute, voilà. Alors, on est dans les années 30, tout à fait autre chose. Alors, il se trouve que ce film, qui est un film absolument passionnant, raconté un peu à l'envers, donc qui part de la mort et qui raconte l'histoire, n'a fait qu'un million et demi d'entrées lors de sa sortie. Belmondo, qui déjà était habitué à 4 millions, a trouvé que c'était un échec commercial. Moi, je peux vous dire que la plupart des metteurs en scène de l'époque auraient été ravis de faire un million et demi d'entrées. Ouais. Eh ben, c'est le film de la rupture, en fait, avec le cinéma d'auteur. Il décide qu'il a beaucoup donné et qu'aujourd'hui, qu'à partir de Stravinsky et de ce qu'il considère être un échec public, ce que ça n'est pas d'ailleurs, il va se consacrer à un cinéma uniquement commercial, complètement, dont il est l'argument principal, en fait, Bébel. D'ailleurs, on a un peu oublié les histoires. Mais voilà, à partir de là, c'est la deuxième carrière de Bébel, très successful, qui commence. Parce que là, il était à 4 millions, mais il va faire 8 millions dans les années qui suivent par film, ce qui est énorme. Hein, y a personne comme lui qui a réussi ça. Hein.
Même pas Alain Delon.
Même pas Alain Delon, ouais. Qui d'ailleurs n'était pas trop lié à la nouvelle vague, Alain Delon, etc. Mais Belmondo va finir par incarner un stéréotype qui va aussi finir par lasser. Voilà, et puis sa carrière va se mettre entre parenthèses à partir des années 90. Ouais.
Michel Richard, merci à vous.
Merci Jean-Noël.
Votre communauté, vos conversations. SBS French.